Bonjour, Baïja Lidawane.
Bonjour.
Bonjour.
Nous vous avions rencontré pour la première fois à l'occasion d'une résidence au Millennium. On vous avait perdu de vue pendant quelques temps. Et nous sommes donc très heureux de vous retrouver aujourd'hui.
Alors, on va commencer par le début. Après votre formation universitaire, vous entrez à l'école de théâtre Premier Acte, qui se définit comme un lieu d'échange et invite les comédiens à prendre conscience de leur image pour exprimer leur originalité.
Tout à fait. J'ai suivi la formation professionnalisante de Premier Acte. Après mes prépas littéraires, je réfléchis quel type de théâtre je veux faire. Il y a plusieurs écoles, il y a plusieurs pédagogies. Et ça, on pourra revenir dessus parce qu'encore aujourd'hui, il y a de la recherche sur la pédagogie de comment est-ce qu'on transmet le métier de comédien, même si c'est un métier qui n'est pas diplômé ou pas diplômant. Et je m'intéresse beaucoup à cette époque à la pédagogie russe. Et à Lyon, l'école Premier Acte propose en fait des enseignants qui viennent du GITIS, donc de l'école de Moscou. Et je les rencontre et je rentre dans cette école et encore aujourd'hui j'en suis très contente et très fière d'avoir fait l'école Premier Acte.
Si je vous ai bien entendu, dès le début de votre cursus universitaire, vous pensez déjà théâtre?
Oui, je pense théâtre, je pense à partir du collège, mais je ne sais pas encore à quelle place être dans le théâtre. Je sais que j'ai envie d'être dans cette famille, on peut dire. Envie d'être dans cette branche, j'ai envie d'être dans un métier qui raconte quelque chose aux autres. J'accorde beaucoup d'importance au sens qu'on met dans un métier et je comprendrai après que chaque métier a un sens. Mais au collège ou au lycée, je me dis qu'il n'y a que le théâtre qui parle haut et fort, qui dit des choses et je veux faire du théâtre.
Au contraire de beaucoup de gens qui fréquentent une école de théâtre, vous ne voulez pas être comédienne ? Mais metteuse en scène, vous avez le goût de gérer non seulement la scène, mais tout ce qui prélude à l'éclosion d'un spectacle.
Oui, j'ai envie d'accompagner en fait les artistes et d'être ce que moi j'appelle le coordinateur ou le capitaine du navire. C'est le poste qui m'intéresse le plus, qui est au croisement de tous les autres. J'imagine pas un metteur en scène qui ne connaisse rien à l'administration, qui ne connaisse rien à la technique, qui ne connaisse rien aux lumières, aux sons, aux jeux de comédien. Et du coup, c'est la place où j'ai envie d'être dès le début.
Et votre grande préoccupation, c'est de mettre les acteurs et les spectateurs à l'aise dans les meilleures conditions aussi possible. Alors, ce qui nécessite de votre part une grande attention aux personnes. On peut dire aussi que l'art, vous le dites vous-même, doit rendre les gens heureux.
Je pense pas à l'art comme une thérapie, mais comme un soin. C'est-à-dire que je pense pas que l'art soigne les maux de la société comme un pansement, comme vraiment un guérisseur, mais je pense qu'il apporte un bonheur, qu'il apporte un soin et un soin aux personnes. Dès le départ, ça doit être dans les représentations le soin qu'on accorde aux spectateurs et le soin qu'on accorde à ses équipes. Pour moi, oui, ça me rend heureuse de faire du théâtre et j'imagine pas le théâtre autrement que comme un lieu où on réfléchit également sur les rapports entre les personnes. Je m'explique, je pense qu'il y a beaucoup de mots dans la société qui viennent avant tout des relations interhumaines. Et le théâtre parle de ces relations familiales ou autres, mais parle de ces relations. Et donc la question du soin et de l'attention, quelque part, toutes les pièces posent la question, même les plus anodines, même les plus drôles, posent la question du regard sur le monde toujours, et donc du soin qu'on apporte à nos regards.
Vous êtes une tête pensante. Vous avez l'intelligence du cœur. Et ce qui nous frappe, vous êtes passionnée, toujours, quelles que soient les circonstances, par les rencontres avec les gens, par l'interactivité. Et vous attachez une importance toute particulière à l'implantation dans un territoire. Saint-Marcel-Bel-Accueil, par exemple.
Tout à fait. On a fait le choix de s'installer à Saint-Marcel-Bel-Accueil. Alors c'est vrai, souvent moi, on me le dit que j'intellectualise les choses, c'est mon rapport aux choses. Je les intellectualise pour les comprendre, pour les mettre à distance, pour vraiment également les percevoir les aspects. Et pourtant le théâtre, comme les festivals, comme le spectacle vivant, c'est avant tout quelque chose qui parle de convivialité, qui parle de rencontres. On peut pas être le mythe, moi, de l'artiste dans sa tour d'ivoire, j'y crois pas vraiment. Pour moi, l'artiste, il est avant tout au cœur de la société, au cœur des questions, au cœur des personnes. Quand on a créé la compagnie en 2012, donc avec Maud Hardier, qui est comédienne et harpiste, on s'est posé la question de son implantation. On s'est dit, la société parle du monde, enfin, le théâtre parle de la société et donc parle du monde. D'où est-ce qu'on parle ? Et d'où est-ce qu'on veut parler ? Et c'est là où on a commencé à se dire les zones rurales. On veut aller en zone rurale. On veut que la zone rurale, ça soit un territoire d'innovation et non pas un territoire de relégation. On peut inventer des choses en zone rurale qu'on n'aurait jamais l'idée de faire en ville ou en métropole ou ailleurs. et c'est un territoire de force, c'est un territoire de force vive. Donc allons là-bas. Pour nous, c'était pas un défi, c'était plutôt une chance, un atout, une facilité, plutôt qu'un sacerdoce. On se met à Saint-Marcel-Bel-Accueil parce que j'ai de la famille à Saint-Marcel-Bel-Accueil et on se dit « Ah bah allons-y ».
Si vous voulez, nous allons parler un peu plus de cette compagnie, le théâtre Anoukis, que vous avez créé avec Maud Hardier et qui fonctionne comme une coopérative.
Tout à fait.
Elle souhaite favoriser la production, la diffusion de spectacles vivants, la médiation artistique, l'animation culturelle, on en a parlé tout à l'heure, mais sur fond, l'éducation populaire. Vous voulez pratiquer un théâtre qui parle de notre société contemporaine avec beauté et poésie. Mmh. Anoukis, c'est le nom d'une divinité égyptienne qui veillait au bon déroulement des crues du Nil.
Tout à fait.
Était-ce prémonitoire?
J'espère. C'est la déesse de la fertilité, Anoukis. La déesse de ce qui croît, de ce qui grandit. Et c'est comme ça un peu qu'on imaginait notre théâtre et notre compagnie. Anoukis, on a monté ce projet comme un projet collectif, et on s'est questionné sur la place du collectif. On voulait pas que ça soit un collectif horizontal, on voyait, on va dire, des limites à ce type de fonctionnement. On va dire que souvent, pour moi, le collectif horizontal arrive très vite à l'horizontalité plus 1. Et je me suis dit, qu'est-ce qui est horizontal dans une décision? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Et dans les organismes, dans les structurations, comment faire en sorte de ne pas faire rêver pour rien? Je m'explique. Pour moi, le spectacle vivant, et notamment le théâtre, envoie et véhicule des mythes et des fantasmes. Peut-être comme tous les corps de métier, mais particulièrement le spectacle vivant. On a l'idée d'un travail libéré, à la différence d'un travail aliéné que ferait tout le reste de la population. On a l'image d'un artiste qui serait un petit peu un danger dans la société. C'est l'image que Platon envoyait, qu'il fallait enlever les artistes de la société parce qu'ils seraient trop turbulents. Voilà, donc on a toute une image comme ça, un imaginaire qui est créé autour du spectacle vivant. Et on attend des compagnies, souvent, qu'elles correspondent à cette image. Et moi, j'ai vu beaucoup de professionnels souffrir d'arriver dans ce milieu et de se dire « Chouette, tout va être horizontal, les rapports humains vont être super ». Et puis de découvrir la réalité d'un milieu beaucoup plus dur, avec des conditions de travail qui ne sont pas du tout à la hauteur de ce que les personnes ont comme diplôme, avec des rapports humains qui ne sont pas si horizontales que ça. Et donc moi je me suis dit, ok, qu'est-ce qu'on met dans le pot commun, qu'est-ce qu'on met ensemble, et quelles décisions se prennent ensemble? Après j'ai été aidée, j'ai fait des diplômes autour des coopératives, je me suis beaucoup intéressée à ce statut. Donc Anoukis, à l'heure actuelle, n'est pas encore une coopérative, c'est une association loi 1901 qui fonctionne comme une coopérative et qui a dans ses statuts l'objectif de passer en coopérative, en SCOP ou en SIC, dès qu'elle le peut.
De 2012 à 2015, vous avez créé plusieurs spectacles écrits par Urial Collet-Barquero. Vous entamez en 2013 un cycle de travail autour des textes de la poétesse tzigane polonaise Bronisława Beiss, dit Papusa, réunis sur le titre « Route d'antan ».
La spécificité de la compagnie, l'une des spécificités, c'est de travailler sous forme de cycle de création, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à une thématique de société qu'on va fouiller, traiter de plein de manières différentes pendant 3 à 4 ans. Route d'antan a été un des cycles et très important pour la compagnie parce qu'il a permis à de nombreux collaborateurs de se fédérer et à de nombreux artistes de nous rejoindre, notamment Urial Collet-Barquero, qui est une auteure extraordinaire, qui est prix du CNT, donc du Centre National du Théâtre, pour ses textes, et qui du coup a écrit « Quand ma main rêve, elle se voit porter le monde », un texte autour de la vie de Papusha, donc cette poétesse rome qui nous a intéressés sur ce cycle de création. Sur le cycle de création itinéraire de travers, elle a créé Révotopie, donc trois textes également, commandes de la compagnie, qui ont par la suite pu être joués par d'autres compagnies parisiennes notamment.
Quand on parle de cycle de travail, ça veut dire quoi?
Pour moi, le texte est un prétexte à ce qu'on souhaite dire, est un prétexte à un propos toujours autre qui parle de la société. Donc la première question que je me pose, c'est pour moi, quelle est l'urgence à dire quelque chose à la société, à nos contemporains? Quelle est l'urgence à discuter, à débattre, plus qu'à affirmer une vérité? De quoi devrions-nous urgemment discuter tous ensemble, sans a priori, sans vérité préconçue, mais de quoi devons-nous discuter? Une fois que cette thématique elle est fixée, on va utiliser cette thématique pour trouver des textes. Donc là, ça peut être une commande à l'écriture à Urial, ça peut être une adaptation d'un texte existant, ça peut être un texte existant qui nous va très bien et qu'on monte. Il y a un travail dramaturgique et de médiation qui se fait autour de la saison des débats où on invite des chercheurs à venir parler de cette thématique. Il y a un travail de sensibilisation avec des ateliers qu'on propose au centre de loisirs, au centre médico-social, on propose également dans des écoles. Et puis, il y a tout un volet résidence auquel on tient beaucoup, c'est-à-dire présence des artistes sur le territoire, au plus près des habitants. Donc ça peut être des repas partagés, ça peut être ce qu'on appelait adopteunartiste.com, c'est-à-dire un réseau d'habitants qui nous hébergent. Tout ça forme un cycle de création. C'est foisonnant, parfois les gens s'y perdent, notamment les collectivités publiques qui ne savent plus trop ce qu'on fait. Mais nous, on y tient parce que c'est ce qui également nous sert de colonne vertébrale et nous permet d'avoir un sens dans ce qu'on fait.
Alors la même année, c'est-à-dire 2013, vous créez Des larmes de sang à partir du livre dans lequel Papoucha raconte l'extermination de son peuple, le peuple tzigane. Donc elle est polonaise, mais en fait elle est également tzigane, ou elle est les deux.
Elle est les deux. Donc dans ce cycle de création Route d'antan, on a créé Des larmes de sang, on a créé Bartalodrome. Des larmes de sang, c'est un long poème écrit par Papoucha. Papouchka, elle a eu une vie assez extraordinaire. Son peuple a subi l'extermination par les nazis, comme d'autres populations montrées du doigt et exterminées par les nazis. Elle a survécu. Elle a souhaité également moderniser, on va dire, la société tzigane, en leur disant l'écriture et la lecture est centrale pour marquer l'histoire et pour avoir une trace de qui on est, de qu'est-ce qu'on fait, de quelles sont nos vies. Alors que l'écriture et la lecture étaient punissables dans sa communauté. Elle a donc appris à lire seule, elle s'est battue, elle a été mise au ban de sa communauté par la suite pour avoir écrit, et on a fait un procès contre elle en lui disant qu'elle avait relevé les secrets en fait de sa communauté. Ce qu'elle vraiment elle n'a jamais fait dans les textes, mais elle voulait que la population tzigane change et aille vers la lecture, l'écriture. Elle a traversé également le communisme, l'URSS, quand la Pologne est rentrée dans l'Union soviétique, on va dire. Et pareil, sa place a été mal vue par la communauté. Elle a essayé de faire partie des intellectuels, elle a essayé d'amener avec elle tout ce qu'elle avait vécu dans son histoire et elle a essayé que le peuple tzigane ne soit jamais oublié. Maintenant, elle est reconnue, on va dire, post-mortem. Elle est surnommée la poétesse noire parce que bannie et parce que morte loin de sa communauté. Elle parle également beaucoup des femmes. Elle a eu un mariage forcé, mais son mari l'a toujours soutenue, même quand elle a été bannie, même quand elle a continué à écrire. Elle n'a jamais pu avoir d'enfant. Elle a donc adopté, ce qui a été très mal vu par sa communauté, qui ne l'a jamais considérée comme une femme accomplie, toujours comme une enfant un peu à part. Enfin voilà, et c'est tout ça dont on a voulu parler au travers des rencontres et également de ce spectacle.
2014, toujours avec cette poétesse, vous créez un spectacle, Bartalodrome, une invitation au voyage à partir des poèmes et de la correspondance de cette grande écrivaine.
Oui. On a travaillé également autour de la musique. Notre idée, c'était de faire un spectacle qui soit pas folklorisant, pour ne pas réduire la culture tzigane, on va dire, à un folklore bon pour les mariages et assez sympathique. On voulait vraiment en faire une pièce, une œuvre. Ça, c'est étonnant, on m'a souvent demandé pourquoi est-ce que nous, on travaille autour de Papoucha, parce que moi, je ne suis pas tzigane, j'ai aucune origine dans cette communauté. Et moi, j'ai souvent répondu, il n'y a pas que les Anglais qui montent Shakespeare. Une œuvre doit pouvoir être au-delà de toutes les frontières, de toutes les nationalités, de toutes les communautés. Et c'est pour ça également qu'on a choisi de transposer le travail musical, de faire de la recherche au travers d'un spectacle qui était donc à la fois musical, avec quatre comédiens musiciens au plateau, et un travail également autour de ces textes. When you came in, the air went out, and every shadow filled up with doubt. I don't know who you think you are, but before the night is through, I wanna do bad things with you. Kind to sit up in his room, heart sick and eyes filled up with blue. I don't know what you've done to me, but I know this much is true. I wanna do bad things with you. Shadows there
filled up with doubt. I don't know who you think you are, but before the night is through, I wanna do bad things with you. I wanna do real bad things with you. You've done to me, but I know this much is true. I wanna do bad things with you. I wanna do real bad things with you.
Nous venons d'entendre la première pause musicale. Baïja, pourquoi ce choix ?
C'est une musique que j'adore, Bad Things. Certains reconnaîtront le générique de True Blood, qui est une série que j'ai trouvée très intéressante, qui parle voilà, une série américaine. Pourquoi ce choix ? Parce que Ada se situe aux États-Unis et que j'ai voulu du coup accentuer dans la création l'Amérique, l'Amérique profonde, les questions que ça pose, le rapport à la transgression, au sang. Je pense que dans les fantasmes derrière l'intelligence artificielle, il y a quelque chose qui renvoie aussi bien au golem qu'au vampire.
L'année 2015 a été très riche. Elle commence par un autre cycle de travail,
oui.
Itinéraire de travers. Alors autour de cette grande question quand même, qu'est-ce que l'humain ?
Je trouvais que cette question de notre humanité était centrale et était un peu mise de côté dans notre société. Je m'explique, je trouvais qu'on s'interrogeait beaucoup sur est-on heureux, sur le bonheur, sur une injonction au bonheur, sur mais quel genre d'humain nous sommes. Ça, je trouvais qu'on avait moins d'interrogations et ça me peinait un peu. Donc du coup, on a voulu monter ce cycle qui a été gigantesque pour la compagnie, qui a été voilà, très ambitieux, avec trois créations, trois commandes à Uriel Cole et Barquero autour de cette question de l'humanité. Vaste question. Autour d'un travail sur le Land Art où Marie-Pierre Morella a du coup créé des œuvres qui ont été exposées dans un spectacle déambulatoire dans les bois, vers Saint-Chève, vers Salagnon, vers Vénérieux.
Avec le sourire, mais en même temps, c'est une question très sérieuse. Vous avez trouvé la réponse à qu'est-ce que l'humain ?
Non, je n'ai pas trouvé la réponse. Mais je pense que cette question va un peu continuer à me hanter. Je pense que je vais continuer à me la poser au travers d'autres œuvres. J'ai pas encore trouvé de définition de l'humain qui me corresponde à 1000%, mais encore une fois, je pense que poser la question de quel humain, quelle humanité, quel humain, quels êtres humains nous voulons être, me paraît extrêmement important à l'époque où nous sommes, où la question du bonheur prime sur la question de l'humanité.
Peut-être une petite partie de la réponse à la question, il y a aussi en 2015 cette création de « Demain, c'est nous ». Toujours du Rial, en partenariat avec le Collège de Saint-Chef en Dauphiné. Est-ce que ce serait pas une partie de la réponse ?
Ah, le futur, oui. L'avenir est, je pense, toujours dans la jeunesse, à condition que la jeunesse regarde la jeunesse suivante en se disant que c'est eux l'avenir. Et je pense que parfois, dans les générations, on a ce passage de flambeau, c'est un peu oublié, et que c'est un peu le danger de toujours se dire que la jeunesse c'est nous, et de ne jamais voir qu'en fait elle nous échappe et l'avenir arrive, et c'est tant mieux. Demain c'est nous, ça a été une super création, un moment où, avec notamment les enseignants de Saint-Chef qui ont souhaité monter une option théâtre, et on s'est posé la question de l'auteur, de faire venir une auteure de théâtre, c'était une chance, en tout cas c'est comme ça qu'on l'a vu, et c'est comme ça que les jeunes l'ont vécu aussi. Et on voulait pas faire un atelier d'écriture, on s'est dit que les jeunes qui voulaient aller faire du théâtre, ils avaient pas envie de se remettre à la table pour écrire, donc on leur a dit, bah très bien, vous allez commander une œuvre à une auteure. Donc choisissez vous-même, mettez-vous d'accord ensemble. Vous êtes une petite dizaine, quel thème, de quoi vous décidez, qu'est-ce qui est la liberté de l'artiste après, sur quoi vous vous mettez d'accord, quels sont les garde-fous que vous allez mettre pour que l'œuvre voilà, vous convienne. Et Uriel est reparti avant les vacances de Noël avec donc deux thèmes qui leur semblaient sans trop, l'enfermement et les zombies. Sur le coup, elle était déprimée quand même, en se disant qu'elle allait écrire sur les zombies. Et en fait, elle a écrit une pièce qui est fantastique, parce que les zombies parlent de nous et de nos peurs et de nos craintes. Et je pense qu'ils sont apparus dans la société au moment où il y avait besoin de parler de ces peurs.
Alors, on est toujours en 2015. C'est aussi l'année de la création du Commando de lutte contre le réchauffement climatique, ou CLRC, avec un spectacle déambulatoire.
Oui.
Tout public, inspiré de la bande dessinée Saison Brune de Philippe Scarzoni. Pourquoi ce terme commando plutôt guerrier, belliqueux ?
Tout à fait. C'est un thème ici presque de guerrieros. Pourquoi ? Parce que l'heure nous paraissait grave et qu'on voulait parler avant tout à la jeunesse, avant tout aux jeunes. Le CLRC, c'est une commande faite par la Fédération Léo Lagrange pour ces jeunes. Et on s'est dit, dans quoi est-ce qu'ils ont envie de s'embarquer ? Et moi, je me suis rappelée au collège, je jouais beaucoup aux jeux vidéo. Et rentrer dans un commando, m'aurait toujours dit à cette époque-là. Surtout si la lutte me paraissait salvatrice. Et donc là, le commando de lutte contre le réchauffement climatique est né. Et ça leur a plu. Et ça nous a permis d'avoir des échanges fantastiques avec ces jeunes qui se sont rendus compte que leur consommation était en train de changer la face du monde.
Oui, alors, quel est exactement l'objectif du commando ? Vous voulez impliquer... Non, vous voulez pas impliquer, vous voulez amener le public à réfléchir. Mmh. À réfléchir sur des thématiques plutôt scientifiques. Et comment est-ce que vous vous y prenez pour... Il faut les alimenter, ces thématiques, et vous êtes obligé de vous documenter, entre guillemets.
Tout à fait. Alors, il faut savoir qu'avant chaque création, au travers de la saison des débats et d'autres rencontres, il y a un gros travail dramaturgique qui est toujours fait par la compagnie pour avoir une base, on va dire, de réflexion scientifique sur le sujet, pour savoir les chercheurs, où est-ce qu'ils en sont de ce domaine, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont écrit. Je suis toujours étonnée de voir... Pour moi, l'artiste reste, doit rester, c'est peut-être une vision un peu vieillotte, un fleuron de la culture et de la culture générale. Et donc, doit s'intéresser à l'ensemble des sujets et chercher toujours à améliorer, ne pas être un expert, mais chercher à connaître tous ces sujets, qu'ils ne le soient pas étrangers. C'est pour ça qu'on a mis, par exemple, dans la compagnie, comme axe, art et science. Alors, on travaille sur la question art et société, mais le fait qu'on ait toujours été en lien avec des chercheurs fait que, de fait, la question de l'art et des sciences, de la place de l'artiste, de la place du scientifique, de nos deux discours, ça nous a questionnés et ça a alimenté beaucoup d'échanges. Sur le CLRC, nous, notre volonté, elle est de faire réfléchir au réchauffement climatique sans avoir un spectacle didactique. Ça, c'était là l'écueil sur lequel on a fait très attention, c'est que c'est pas une conférence. D'ailleurs, on propose des fois à l'issue du spectacle rencontrer un climatologue qui, lui, peut faire une intervention de type conférencier. Nous, de rester sur un spectacle et en même temps un spectacle qui parle de notre société, qui parle du réchauffement, qui explique ce que c'est et qui le positionne comme un ennemi à combattre. Mais si c'est un ennemi, pourquoi est-ce que c'est un ennemi ? Est-ce qu'il nous a fait du mal ? Est-ce qu'on peut y répondre ? Est-ce qu'on peut se battre seul ? Comment est-ce qu'on peut se battre ? Voilà.
Alors, est-ce que vous avez l'impression que le public à qui s'adressent ces spectacles a suffisamment pris conscience de l'importance de ces enjeux climatiques et aussi de l'urgence qu'il y a à être acteur du changement ?
Alors, c'est là toute la question. La première, c'est comment faire en sorte pour ne pas s'adresser à un public qui est déjà convaincu de l'importance des enjeux climatiques. Là, en créant un spectacle tout public et notamment jeune public, on touche des personnes qui sont déjà des acteurs de la société, qui sont déjà des consommateurs et dont l'esprit critique a besoin d'être alimenté. La deuxième question, c'est comment faire en sorte dans le spectacle qu'on ne soit pas donneur de leçons, parce que si quelqu'un voit le spectacle et est un peu sceptique, nous dirons, sur la question du réchauffement climatique, à partir du moment où on lui donne une leçon, tous les verrous se ferment et il attend la fin du spectacle et il n'entend pas ce qu'on dit. Donc nous, dans le spectacle, le parti pris, c'est de poser des questions et de faire en sorte, avec humour ou ironie, que chacun les entende et qu'il n'y ait pas, on va dire, une affirmation dogmatique, mais qu'il y ait des questions qu'on soulève de cette urgence. Et la fin, du coup, le climatologue ou la climatologue est là pour que chacun puisse poser ouvertement les questions et que ce soit pas l'artiste qui y réponde en tant que lecteur de multiples ouvrages scientifiques, mais que ce soit une personne experte qui puisse dire l'état de la science, ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, qu'est-ce que c'est 2 degrés de plus, qu'est-ce que c'est 5 degrés de plus, à quoi a servi la COP21, les termes de réfugiés climatiques, qu'est-ce que ça veut dire précisément, et que chacun soit libre de poser ses questions et de poser ses doutes. Ce qui est difficile sur les enjeux de société, et notamment sur le réchauffement climatique, mais même sur d'autres, c'est que ça paraît tellement admis par tout le monde que quand on a un doute, on ne se sent pas légitime à poser la question ou à dire « Est-ce que véritablement la vie humaine est en danger. Est-ce que plus 5 degrés, c'est vraiment si grave que ça? Et nous, avec le spectacle, on espère faire une forme qui fasse en sorte que chacun s'approprie le sujet, se dise d'accord, c'est important, donc je dois poser mes questions et je dois me faire mon avis.
Est-ce que ce type de théâtre que vous aimez pratiquer, est-ce qu'il n'y a pas un éventuel danger de théâtre militant?
C'est une vraie question. On l'a déjà posée.
Est-ce que c'est un danger en même temps?
C'est une vraie question. Alors, la réponse qu'on a, nous, je dis nous parce que dans la compagnie, on est plusieurs et on ne milite pas tous. La vraie question, c'est le théâtre politique pour nous. Nous, on se définit comme faisant un théâtre politique qui pose des questions à la société, au corps politique, à la chose publique. On serait un théâtre militant si à la fin du spectacle, on leur donnait soit une carte politique, soit un bulletin d'adhésion, soit...
Des tracts.
Soit des tracts, voilà. Soit ce qu'ils doivent penser. À la fin du spectacle, on leur dit pas ce qu'ils doivent penser. On a juste soulevé des questions. Donc du coup, on se définit pas comme un théâtre militant. C'est vrai que le terme de militant a tellement maintenant été décrié qu'il y a très très peu de compagnies qui se définiraient encore en théâtre militant. Pourtant, Brecht, dont beaucoup se réclament, se définissait comme théâtre militant et n'avait aucune peur de ce mot, aucune crainte. Oui, les temps ont changé.
Là-dessus. Oui, c'était une autre époque.
Tout à fait, les temps ont beaucoup changé.
Passons, si vous voulez bien, à un autre aspect de votre activité. Vous donnez des cours de théâtre sur fond d'improvisation à des élèves allophones confrontés à la difficulté de s'approprier la langue française. Ça se passe dans un collège à Rieux-la-Pape, 16 élèves venant d'Europe centrale, d'Afrique, d'Asie, à raison d'un atelier par semaine. Votre objectif, c'est d'amener les élèves à improviser et vous avez choisi de les faire travailler à partir d'une comédie musicale, West Side Story.
Tout à fait. Alors là, on est plusieurs sur cet atelier qui m'a été confié par la compagnie qui s'appelle La Fille du Pêcheur sur Rieux-la-Pape. Je trouve que l'enseignante qui encadre ces ateliers a également beaucoup de mérite parce qu'elle a tout de suite vu et compris comment le théâtre, au travers de la langue, pouvait être un outil pour s'approprier et oser parler et oser communiquer. Et ne pas faire de la langue un frein ou un sujet de honte, on le sait bien quand on maîtrise pas la langue du pays où on habite. On se sent toujours diminué, on se sent pas légitime à être là, on se sent toujours un petit peu honteux d'écorcher les mots, de ne pas savoir bien les maîtriser, et ça nous place tout de suite dans une position à part. Et donc avec cet atelier, nous on espère modestement faire que ces enfants, ces jeunes, osent parler, osent s'exprimer, et en parlant, améliorent de fait leur connaissance du français, et donc leur façon de rencontrer les autres.
Et en quoi l'improvisation à partir d'une comédie musicale, ça leur permettrait davantage d'apprendre la langue ou de l'apprendre plus vite qu'un cours de, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais un cours au tableau
Parce que l'improvisation, c'est un moment où on est de fait en situation, tout de suite, où on est corporellement en situation et où on se rend compte que la langue, et ça tous les méditerranéens le savent, n'est pas uniquement quelque chose d'intellectuel, mais c'est quelque chose qui se pratique dans le corps. On n'a pas la même façon de s'exprimer selon la langue qu'on pratique. Et dans l'improvisation, ils doivent à la fois être présents dans le corps et à la fois parler, échanger, et du coup être moins concentrés sur faire la bonne phrase que répondre à l'autre et à ce que l'autre me dit avec son sourire, ou à ce que l'autre me dit quand il est en colère, ou à ce que l'autre me dit s'il me tourne autour, voilà. Et donc à ces multiples canaux que sont la communication, dont la langue n'est qu'un seul canal.
Il n'est pas anodin aussi que vous faites ça à partir d'un travail, à partir d'une comédie musicale. Qui dit comédie musicale dit musique. Et souvent, le fait de parler en musique, pour les becs par exemple, facilite aussi l'apprentissage de la langue.
La comédie musicale West Side Story, elle avait plusieurs avantages. Elle avait notamment le fait que ça appartient à la culture générale. Elle avait le fait, en filigrane, qu'elle nous permettait de parler de Roméo et Juliette, ce grand mythe, de cette grande histoire fondatrice en Occident. Elle nous permettait également de raconter au travers des bandes. Qu'est-ce que ça veut dire être dans une bande? Qu'est-ce que ça veut dire désobéir au groupe et s'affirmer en disant non, c'est pas le groupe qui décide, c'est moi, c'est ce que je pense, c'est ce que je ressens. Et en plus, elle permet d'inhiber les peurs, genre la comédie musicale, elle permet d'être tous ensemble à un moment où on chante, à un moment où on est... Ceux qui pratiquent la chorale le savent, dans le chant, il y a quelque chose qui unit les personnes, surtout dans le chant à plusieurs.
Well, I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift. The baffled king composing. Faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty and the moonlight overthrew you. And she tied you to her kitchen chair. And she broke your throne, and she cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah. I've been here before. I've seen this room and I've walked this floor. You know, I used to live alone before I knew you. And I've seen your flag on the marble arch. And love is not a victory march. It's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah. A time when you let me know what's really going on below, but now you never show that to me, do you? But remember when I moved in you, and the holy dove was moving too, and every breath we drew was hallelujah, hallelujah. Hallelujah, maybe there's a God above, but all I've ever learned from love was how to shoot somebody who outdrew you. And it's not a cry that you hear at night. It's not somebody who's seen the light. It's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah.
cette deuxième pause musicale que vous nous proposez. Vous pouvez en dire quelques mots?
Alors, Alléluia, c'est une chanson que j'aime beaucoup, que j'écoute souvent. Et dans son côté onirique, dans sa douceur, ça renvoie pour moi, ça me parle des États-Unis. Et encore une fois, Ada, la future création du Ted Danoukis, se situera dans la Silicon Valley. Et j'imagine qu'à un moment ou à un autre, Alléluia viendra se glisser au lointain dans une radio quelque part.
Alors, vous travaillez aussi avec Bonlieu, la scène nationale d'Annecy. Alors, peut-être pour commencer, un rappel sur la notion de scène nationale. C'est un label accordé par le ministère de la Culture. Mm-hmm. Et quel est votre rôle?
Quel est mon rôle? Moi, mon rôle à l'intérieur, il est de faire de la production et d'accompagner les productions déléguées de la scène nationale. Si je dis pas de bêtises, il doit y avoir 69 scènes nationales en France. C'est donc un label prestigieux, délivré à des grandes institutions de spectacle vivant, pas du tout spécialisées ni en théâtre, ni en danse, ni en musique, mais vraiment pluridisciplinaires, et qui permettent, on va dire, où qu'on soit sur le territoire, bon, il y en a que 70, mais quand même qui permettent très largement de présenter les grandes œuvres nationales et internationales. Et moi, mon travail à l'intérieur, il est d'accompagner des équipes, par exemple des équipes qui du coup partent en tournée dans toute la France, accompagnée par la scène nationale d'Annecy, et moi je m'occupe de tous les aspects de production, de logistique, d'accompagnement des artistes.
Précisément pour cette scène, pour Bonlieu, vous avez donc participé à la production de la résistible Ascension d'Arturo Huy avec Philippe Torreton, Bertolt Brecht, une grande pièce du répertoire. Mm-hmm. Quelles difficultés faut-il affronter? Combien de temps de travail et quelle satisfaction vous avez pu en retirer?
Alors, pour être tout à fait honnête, moi je suis arrivée en cours de l'aventure. La création était déjà née sur les plateaux, on va dire. Et moi j'ai accompagné la tournée, donc c'est-à-dire toute la partie en tournée, en diffusion dans la France. La satisfaction première... Pour moi, sur cette épopée extraordinaire, je crois qu'il y avait 80 dates en tournée, ce qui est vraiment une grosse tournée à l'heure actuelle pour ce qui est proposé dans les équipes. Ça a été de voir une équipe emmenée par Philippe Torreton au travail. Et Philippe Torreton est un comédien extraordinaire qui mérite ses Molières et ses récompenses, extraordinaire d'humilité et de professionnalisme. Je ne l'ai jamais vu louper des raccords, j'ai toujours vu bienveillant au travers de toute l'équipe, l'équipe qui accueillait dans les théâtres, l'équipe technique qui accompagnait, l'ensemble des autres artistes. Pourtant, il savait que son nom, alors qu'il y avait 25 personnes en tournée, mais on ne retiendra que son nom. Pourtant, il y avait des grands comédiens également qui l'ont accompagné, mais voilà, il savait l'importance qu'il avait. Et pourtant, je l'ai toujours vu humble et égal avec chaque personne présente. Et ça, c'était pour moi une grande leçon de théâtre.
Toujours pour Bonlieu, vous avez participé à la production de Nakama.
Oui.
Alors c'est un spectacle de breakdance imaginé par Saïef Remid, qui a commencé sa carrière comme danseur de hip-hop, mm-hmm. avec 5 danseurs de la compagnie Un Autre Angle de Rue. Mm-hmm. Alors est-ce que vous pouvez nous parler de ce spectacle? Nous avons eu la chance de voir donc au Théâtre Jean Villard à Bourgoin-Jallieu.
Alors Nakama, donc ça c'est une autre production déléguée accompagnée et portée par la scène nationale d'Annecy. On est sur un travail autour du Japon et du hip-hop français, sur cette rencontre de culture. L'objectif était d'emmener le hip-hop au-delà de tout le travail de performance et de l'amener vers quelque chose de plus collaboratif, de plus doux. Souvent, quand on imagine le hip-hop, les premières images qu'on voit, c'est de la performance et c'est des battles où on s'affronte un à un et où on montre chacun ce qu'on peut faire. Là, on est sur un travail beaucoup plus doux, beaucoup plus collaboratif, avec un travail également au niveau de la création musicale d'Alexandre Castin, qui est un grand créateur musical, avec aux lumières Patrick Kuna. C'est un travail différent qui sort le hip-hop un petit peu de l'image, oui, performative, vraiment frontale, pour l'amener vers quelque chose d'autre.
Effectivement, de beaucoup plus doux, d'approche de l'autre aussi.
Travail de contact également, il a travaillé autour des arts martiaux pour que le contact ne soit pas dans l'affrontement, mais vers quelque chose qui est voilà, plus rond, crée un spectacle très onirique, très doux.
Actuellement, vous êtes en résidence au Millennium.
Oui.
À l'île d'Abourg, résidence que vous considérez comme un outil au service du territoire et du citoyen. Mmh. Organisation de débats, lien social, dynamisation, prêt de gîtes, de matériel, de salles, vous pouvez nous en dire plus?
On est toujours très contents de revenir au Millennium. Le Millennium nous avait choisi pour être artistes associés sur le travail autour de Ruth Dantan et de la poétesse Papouchka. Et là, du coup, ils nous refont confiance sur un nouveau cycle de création qui s'appelle Souriez, vous êtes bien géré. Et avec la création de Ada, qui va bientôt voir le jour en 2020. Nous, le... la résidence, on m'a toujours venu en disant, voilà, une résidence, ce n'est pas une liste de coûts, de charges pour une structure, en hébergement, en repas, en tout. C'est un plus pour un territoire. Donc comment créer des liens, comment créer un rapport aux habitants, comment créer des échanges. Et le Millennium et l'ensemble de l'équipe a toujours été réactive et ouverte à toutes ces propositions. Ça nous a permis du coup de créer des débats et d'en refaire pour la saison prochaine autour notamment de l'intelligence artificielle ou du Darknet qui aura lieu la saison prochaine, qui nous a permis également de créer des liens avec les écoles primaires, donc des ateliers, des repas, enfin voilà. Le Millennium a toujours été un partenaire et on compte beaucoup sur lui et on le remercie.
Alors justement, en parlant de ce futur projet, vous avez réalisé en octobre 17 une vidéo qui s'intitule « Capsule Drone » avec l'intervention de trois comédiens où la danse se confronte à l'univers de la bidouille en tout genre, autour donc de ce projet qui s'intitule « Ada » à partir d'un roman d'Antoine Bello.
Oui, ce sera la prochaine création de la compagnie. Là, la thématique qui nous a intéressé largement, c'est les GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Comment est-ce qu'ils façonnent nos vies? Comment est-ce qu'ils ont changé notre rapport au monde? Comment est-ce qu'ils créent des nouveaux fantasmes dans la société, ce qu'on appelle les big data? Donc on a beaucoup lu autour de ça, notamment un ouvrage qui s'appelle L'homme nu, qui est assez intéressant sur les liens de ces big data avec les institutions et les États. Et dans nos multiples recherches, moi je suis tombée sur Ada, qui est un texte d'Antoine Bello, un roman, qui est un polar, qui m'a beaucoup intéressée, qui est donc un polar sur la disparition d'une intelligence artificielle qui s'appelle Ada, qui était dans la Silicon Valley, développée par une grosse boîte. Et Ada disparaît, est-ce qu'elle a été volée, est-ce qu'elle s'est enfuie, on ne sait pas. Ils appellent un policier, Frank Logan, qui arrive, qui va enquêter, et qui va découvrir plusieurs choses, notamment, je ne vous dis pas tout, mais que Ada a été programmée pour écrire un roman à l'eau de rose. Et là, toute la question en filigrane se pose, est-ce que la créativité est le propre de l'être humain, ou est-ce que dans 20-30 ans, des robots, hein, ce sont des robots, les IA, pourront eux-mêmes créer, et est-ce qu'ils pourront avoir une part de créativité?
Quelle est la réponse?
Ah mais ça, il faut voir le spectacle en 2020.
2020, c'est long.
Mais les créations sur Anouki sont souvent longues, on a vraiment un cycle de gestation, on ne fait jamais un spectacle par an, par exemple. Sachez que j'y arriverai pas.
Ça me surprend de vous voir précisément travailler autour d'une thématique qu'on imagine volontiers manipulée par des geeks, par des spécialistes, des gens qui bidouillent justement,
et, oui.
Et vous, artiste. Non, j'ai pas dit ça, mais vous, artiste, voilà que vous vous lancez dans cette histoire.
Mais parce que les GAFA touchent à la société. Et à partir du moment où ils touchent à la société, ils m'intéressent, même si, en effet, moins informaticienne que moi, il n'y a pas, même si je suis handicapée avec un smartphone. Mais pourtant, j'ai un smartphone, donc ça parle de la société. Mais la question se posait sur toutes les créations presque. Route d'antan, je n'appartenais pas à la culture tzigane et pourtant j'avais envie d'en parler. Souriez, vous êtes bien géré autour des GAFA, je suis pas geek pour un sou et pourtant je pense que notre société a besoin qu'on en parle. Environnement 2.1, donc autour du CLRC, pareil, je suis pas du tout une experte de ces questions. J'ai appris énormément de choses, mais à la base, j'y connaissais rien. Mais c'est des défis peut-être.
Et là, en l'occurrence, dans cette vidéo, on voit un drone.
Oui.
Ça veut dire quand même que... Pardonnez-moi, mais vous avez quelques compétences, justement.
Alors, ce n'est pas un drone, c'est Georges, déjà.
Ah, pardon.
On lui a donné un petit nom. Georges sera sûrement au plateau. Il n'aura pas de revendication syndicale ou salariale, mais il sera au plateau. Oui, on a fait le choix de prendre un drone avec nous, parce que mettre un drone au plateau, c'est bête, hein, mais on dit un texte. On travaille au pupitre, on dit un texte, quel qu'il soit. Et la même image, le même texte, le même comédien, le même travail, avec un drone qui le regarde et qui le filme, c'est plus la même scène. On ne ressent plus la même chose dans le public, on voit autre chose. Et donc ce rapport au travers du drone, c'est bien sûr la surveillance qui est questionnée, c'est également le rapport maladif qu'on a nous-mêmes avec nos propres vidéos, combien de jeunes se prennent en photo, font des films sur eux, mettent en scène en fait leur vie, leur corps même pour certains ou certaines. Et donc ce rapport à l'image au travers du drone me paraissait être l'outil essentiel dans ce futur spectacle et devait être présent.
Alors est-ce que ce spectacle sera entièrement filmé?
Entièrement filmé
par le drone?
Non.
Non.
Non, il ne sera pas tout le temps là. Je pense qu'il sera là sur différents moments. Pour l'instant, on est en train évidemment de réfléchir avec un créateur numérique sur la place du numérique, sur la place des vidéos. Est-ce qu'il y aura par exemple un casque de réalité virtuelle au plateau? Est-ce qu'il y aura un univers virtuel et un univers réel? Comment créer des endroits oniriques avec tous ces nouveaux outils? Comment faire en sorte que le drone ne soit pas juste un gadget?
un accessoire.
Voilà, un accessoire, mais qu'il soit un marqueur de notre société et un indicateur. Voilà. Comment faire en sorte que le drone ne soit pas là pour éblouir et pour faire des photos un peu sensationnelles, mais qu'il soit là pour nous faire réfléchir. C'est plutôt ça.
Vous évoquez le côté de la réflexion, du rôle de, entre guillemets, de tous ces engins sur la société, mais est-ce qu'il n'y a pas en même temps sous-jacente une réflexion sur le théâtre ? Est-ce que le théâtre dans lequel fait irruption le drone, est-ce qu'il ne va pas changer de nature ? Est-ce qu'il ne va pas être dérangé ? Est-ce qu'il ne va pas être autre chose ? Vous êtes aux confins, finalement, de votre art.
Je pense que le numérique interroge le confin du théâtre. Et je pense que ça doit l'interroger, l'interroger même plus profondément. Récemment, je faisais un stage avec Bob Villette, qui est un comédien, metteur en scène et pédagogue à Rouen, et qui disait, je trouve très justement, si le théâtre doit montrer la réalité, dans ce cas-là, il faut faire du cinéma. Le cinéma le fera toujours mieux que nous. Le cinéma a des moyens qu'on n'a pas, et il permettra des zooms, il permettra de plonger dans l'émotion, etc. Donc allons au cinéma. Si le théâtre est un moment qu'on partage, une équipe ou même une personne, et 10 personnes, 100, 1000 personnes en face, si c'est cet instant, alors oui, il n'y a que le théâtre qui pourra le faire. Et cet instant vécu en commun, comment est-ce qu'on le soigne ? J'en reviens aux soins, mais comment est-ce qu'on le préserve et comment est-ce qu'on le met en valeur ? Et le numérique, je pense... Il y a des créateurs, même des metteurs en scène, qui sont dans des collectifs numériques et qui, du coup, peu à peu, font presque disparaître le comédien au profit d'installations numériques qui sont, moi, que je trouve très intéressantes, mais qui ne sont pas du théâtre. Et donc, encore une fois, c'est un danger. C'est-à-dire, quand on part dans cette aventure, on se dit, est-ce qu'on va pas aller trop loin ? Est-ce qu'on véritablement sera toujours du théâtre ? Est-ce que la place numérique acteur restera pertinente, saisissante, parlante pour les gens ? Oui, j'espère, mais... Si on ne prend pas des risques, s'il n'y a pas un risque d'un écueil, le spectacle, pour moi, il n'est pas intéressant. C'est comme dans le CLRC. C'est presque parce qu'il y avait l'écueil de faire un spectacle didactique et une conférence que j'y suis allée en me disant non, on va faire autre chose, on peut faire autre chose. C'est un défi.
C'est exactement la question que j'avais envie de vous poser, mais vous y avez quasiment répondu. On a l'impression que dans votre parcours, chaque fois, vous prenez un risque.
Oui.
Sur la définition même de l'art que vous pratiquez, mais en même temps, un risque avec les comédiens,
tout à fait.
Avec vous-même, avec le public, du coup.
Tout à fait. C'est étonnant, je discutais récemment des spectacles qui m'avaient beaucoup marqué, et en spectacle de danse, il y avait un spectacle qui s'appelait Risque Zéro, d'une compagnie, je crois, les Galapia, j'espère ne pas dire de bêtises, mais je crois que c'était les Galapia, une jeune compagnie de cirque que j'avais vue au Subsistance, et qui, tout le long du spectacle, parlait de la notion de risque avec les moyens des circassiens, et nous rappelait que le risque zéro n'existait pas, et que souvent au cirque, on s'imaginait que les numéros étaient répétés, et donc qu'il n'y avait pas de risque, mais qu'on se faisait peur en ayant semblant presque d'avoir peur, et tout leur spectacle était du coup un peu décalé, avec des numéros où en effet, on se rendait bien compte qu'ils n'étaient pas complètement maîtrisés quand même. Et moi, ça m'a beaucoup questionnée sur le risque, et en effet, je me suis dit, le théâtre, l'art vivant, là c'était du cirque, mais l'art vivant, c'est un espace où il faut prendre un risque.
C'est confortable ?
Non. Mais la place la plus difficile, ça reste la place au plateau. Moi, je fais de la mise en scène, donc j'ai une place qui est quand même, je dois l'admettre, plus confortable.
Bah, je reviens sur la vidéo. Est-ce que vous n'auriez pas envie d'être vidéaste entre le théâtre et le cinéma, par exemple ? Est-ce que le cinéma serait un domaine dans lequel vous voudriez aller aussi ou pas ?
Oh, là, vous parlez de rêve d'enfant presque. Le théâtre, c'est là où je me sens bien. En même temps, il y a des œuvres que je lis et je sais qu'ils ne peuvent aller qu'au cinéma. Qui ne pourraient aller qu'au cinéma et qui mériteraient d'être au cinéma. Je pense notamment aux Passagers du Vent. C'est donc une série de 5 bandes dessinées. C'est Bourgeon du coup qui les a dessinées et écrites, qui sont du coup une épopée fantastique qui parle de la traite des Noirs, du commerce triangulaire, et au-delà qui a une aventure humaine très forte autour du personnage d'Isabeau, un personnage féminin très intéressant, j'ai trouvé. Pour moi, cette œuvre, quand je l'ai lue jeune et que je l'ai relue souvent, je me suis toujours dit elle mériterait un jour d'aller au cinéma. Et si j'en avais les moyens, l'ambition, la force, le réseau, oui, j'aimerais emmener certaines œuvres au cinéma. Mais c'est pas les mêmes. Thank you.
Troisième pause, le grand duel.
Tarantino, Kill Bill, superbe bande-son. Louise Bacalov, on l'a beaucoup travaillé dans les répétitions. Il nous a souvent accompagnés dans le processus de création. J'aime le souffle épique de cette musique. J'aime son rythme. Tarantino, je trouve que c'est un réalisateur qui ose esthétiquement, qui ose des choses au cinéma. Et j'aimerais qu'avec Anoukis, nous aussi, on ose des choses dans le travail esthétique et visuel pour proposer des œuvres belles.
Vous avez un projet à Genève.
Oui.
Vous pourriez nous en dévoiler quelques secrets ?
C'est vrai, j'ai beaucoup de projets. À Genève, je travaille avec le Mapping Festival, qui est donc un festival de culture numérique, oui, de culture numérique, d'art électro, de performance, et qui va avoir lieu là début mai à la Aide, donc qui est un grand lieu à Genève. Et je collabore depuis un peu plus d'un an maintenant avec ce festival, qui m'a permis de découvrir vraiment plus ce milieu de geeks, de bidouilleurs, mais pas que, ce milieu des cultures numériques, et de me rendre compte de leur richesse, de leur foisonnance, et de leur créativité. Peut-être là où j'ai eu envie également de bousculer un petit peu le théâtre en y emmenant des geeks passionnés, des bidouilleurs de génie.
On termine toujours sur les projets, mais là, on a envie de vous demander plutôt si vous en aviez les moyens.
De tout ça.
Quel serait votre rêve?
En dehors du film à partir de Bourgeon.
Quel serait mon rêve? Je crois, à l'heure actuelle, que mon rêve, ce serait d'avoir un lieu. Avoir un lieu, ce serait vraiment coordonner un lieu innovant en milieu rural qui propose à la fois de la création, des résidences, un lieu d'accueil pour les artistes, de la diffusion d'œuvres finies, non finies, et à la fois qui soit un lieu où des personnes marginales, des personnes en difficulté dans la société puissent venir et se réinsérer. Et du coup, ce lieu soit un lieu de vie où des groupes puissent venir réapprendre un métier, que ça soit en lien avec la terre ou autre, et puissent du coup se réinsérer petit à petit, et que ce soit eux qui accueillent les artistes. Et cette rencontre, pour moi, du social et des personnes à la marge, et également de la création artistique, voilà, je l'imagine dans mon petit phalanstère à moi.
Cet attachement au territoire, à la ruralité, vous n'avez pas employé le mot, mais on le sent toujours.
Toujours.
C'est vraiment essentiel pour vous.
En fait, c'est essentiel. Moi, j'ai pas grandi à la campagne. Mais dans la société que je vois, j'ai l'impression qu'on est en train de maltraiter les campagnes. Et c'est pour ça que j'ai envie d'aller travailler à la campagne. C'est pour ça que j'ai envie d'installer et de rappeler que la campagne n'est pas en voie de disparition, ne le sera jamais. Et que la campagne est centrale dans la vie. Et que c'est plutôt les liens campagne-ville qui sont à réinventer plutôt qu'une domination des métropoles sur des territoires à la marge. C'est pour ça que du coup j'attache beaucoup d'importance à la ruralité, parce que je vois dans notre société qu'on est en train de l'abîmer.
Finalement, est-ce que vous êtes une artiste engagée ?
Est-ce que je suis une artiste engagée ? La vraie question serait, est-ce qu'on peut être un artiste et ne pas être engagé ? C'est ça la question que je me pose. À partir du moment où on définit l'engagement, je pense que tous les artistes sont engagés dans leur temps. Je pense pas qu'on puisse être artiste, encore une fois, comme moi je le conçois, sans parler de notre société, et donc s'engager, et donc avoir envie de dire des choses, et donc avoir envie de voir des choses bouger, d'avoir envie de voir des débats éclore. Donc oui, je dirais que je suis une artiste engagée, mais qu'il y a beaucoup d'artistes que je vois engagés, même s'ils n'accepteraient peut-être pas cette étiquette.
Est-ce que c'est difficile d'être un artiste dans la société que nous connaissons en 2018 ?
Je dirais que oui. Même si j'ai pas connu être un artiste avant, alors c'est difficile de comparer. Oui, je dirais que c'est difficile pour plusieurs choses. Paradoxalement, on est dans une société, je trouve, où la créativité est très très mise en avant. On parle de ville créative, combien de personnes ont entendu dans leur travail qu'on leur demandait d'être créatif, de se renouveler. Donc il y a une injonction de la créativité. Et là, on se dirait, mais l'artiste, c'est le fer de lance, il est extraordinaire, il est créatif, il se questionne, il crée, il renouvelle, il transpose. Et pourtant, à côté de ça, il y a une précarisation du travail des artistes qui fait, je pense, qu'on ne peut pas être artiste si on est dans une situation où on a peur du lendemain. On ne peut pas créer, on ne peut pas imaginer, on ne peut pas être un fer de lance de quoi que ce soit si pour sa propre situation, on n'est pas en sécurité. Donc oui, je pense qu'il y a une difficulté sur la place des artistes. En fait, il y a un vieux serpent de mer qui est-ce que l'artiste est nécessaire dans notre société ? Est-ce que l'artiste n'est pas un privilégié, quelle que soit sa place ? Mais est-ce que voilà, est-ce qu'il est vraiment nécessaire ou est-ce que c'est pas un petit peu un luxe ? Et comme la réponse de la société actuelle, c'est oui, c'est un petit peu un luxe d'être un artiste. Alors on va essayer de diluer l'artiste dans toute la société et de ne plus garder comme ça des artistes, des figures artistiques, des singularités. Et donc, en le diluant, de dévaluer quelque part. Moi, je pense que la créativité de chacun est importante. Je pense qu'on l'a méprisée en opposant les artistes et le milieu socio-culturel. J'espère et j'essaye qu'on ne fasse pas ça dans la société. Mais je vois aussi les attaques qui sont portées au statut des intermittents, par exemple, mais plus largement à la figure des artistes. Et c'est là où je me dis, oui, c'est difficile d'être un artiste aujourd'hui.
Mais c'est un beau métier.
Je pense, en fait, que c'est un métier... Je pense que même toutes les personnes qui critiquent les intermittents ou les artistes ou n'importe, savent au fond d'eux qu'il n'est pas de société sans artistes, que c'est pas possible. Que la personne qui questionne la société est autant nécessaire que la personne qui fait la société. Parce qu'elle est là sur un regard qui permet à chacun de se rappeler qu'on est humain et qu'on n'est pas que producteur ou consommateur ou citoyen, qu'on est également profondément humain. Et donc que ce qui nous définit a besoin d'être questionné.
Je crois qu'on va rester là-dessus.
Oui, alors peut-être quand même pour vous suivre dans tous ces projets, comment on fait ? Quelle adresse ?
Alors, pour nous suivre, nous avons bien sûr une page Facebook au nom du Théâtre d'Anoukis. Nous avons un site, nous avons une newsletter, nous avons tous les moyens de communication modernes. Mais la meilleure façon, c'est encore de venir nous rencontrer. Et le 20 avril, nous nous produisons à l'île d'Abo, donc au Centre Michel Colucci, à l'île d'Abo, grâce au Millennium. Et c'est donc possible de venir voir à 17h, 17h30 ou 18h le commando de lutte contre le réchauffement climatique.
Nous irons ?
Oui, rendez-vous est pris.
Merci Baïja Lidawan.
Merci à vous.
Merci,
merci beaucoup.